Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Toumba Kamanga.
Bonsoir. 85% du territoire katangais découpé en carrés miniers et attribué à des tierces personnes selon une récente enquête du professeur belge Yann Gorus, chiffre contesté par le cadastre minier qui parle plutôt de 53%. Comment se présente réellement l'attribution des carrés miniers au Katanga? L'octroi de ces surfaces profite-t-il au Katanga et au pays? Voilà le sujet de cette émission et nos invités sont déjà en place pour y répondre. Il s'agit de Félix Mupande, il est directeur général du cadastre minier. Bonsoir, monsieur le DG.
Bonsoir, monsieur Claude.
Oui, Kunda Milundu, député national élu du territoire de Sakania au Katanga. Vous êtes en ligne, honorable.
Oui, je suis en ligne.
Bonsoir. Et il y a aussi Jean-Pierre Moukeba, membre du comité national de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives, ITE. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre.
Bonsoir, monsieur.
Voilà, bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Je voulais annoncer 85% du territoire katangais découpé en carrés miniers attribué à des tierces personnes selon une enquête du professeur belge Yann Gorus, chiffre contesté par le cadastre minier qui parle plutôt de 53%. Comment se présente réellement l'attribution des carrés miniers et du Katanga? Dans une déclaration devant la presse le 6 juillet à Lubumbashi, le professeur belge a affirmé, après enquête, que effectivement 85% du territoire de la province du Katanga est découpé en carrés miniers, déjà attribué aux tierces personnes, emplacements occupés, villes et villages. Rien n'est épargné en dehors de petits espaces occupés par des marécages sans intérêt. Et une autre inquiétude du même professeur belge, la plupart des acquéreurs de ces carrés miniers ne disposent ni des moyens, ni de la technique pour explorer ou exploiter ces surfaces attribuées. Le professeur Yann Gorus propose des pistes de solutions qui, selon lui, rejoignent celles déjà envisagées par une ONG à Kinshasa. On l'écoute au micro de Paul Kaboba.
C'est d'abord de mettre un moratoire sur l'octroi de nouveaux permis de recherche. Deux, que les permis dont les titres sont échus soient examinés par le service qui est compétent pour ça, c'est le CRGM. Il y a donc ici, au Katanga, 400 permis de recherche qui seront échus en fait à la fin de l'année, ou qui sont déjà échus.
Voilà, c'était là le professeur belge. François Zécouillet, lui, c'est un expert dans le secteur minier. Il n'est pas d'accord avec les résultats de l'enquête du professeur belge, car selon cet expert congolais, les permis attribués aux tierces personnes ne sont que des permis de recherche et non d'exploitation. Il pense que cette attribution des carrés miniers n'empiète pas sur les villages. On écoute François Zécouillet au téléphone de Kalinkouté.
Actuellement, la plupart des permis octroyés par les ministres des Mines au Katanga sont des permis de recherche. Et par conséquent, il est inconcevable qu'on puisse affirmer, comme le fait le professeur Angorus, que au Katanga, il ne reste plus que quelques marécages sans importance du point de vue de l'agriculture, parce que plus de 70% des terres sont encore disponibles pour l'agriculture, d'autant plus que les travaux de recherche ne concernent que des espaces très réduits et ils n'empiètent pas ni sur les villages, ni sur les autres zones habitées, ni sur les champs des populations, encore moins des fermes.
Monsieur DG, Mopande, je crois que vous avez eu à vous expliquer longuement au cours de l'émission de mon confrère Claude Kervin, l'émission Parole aux auditeurs. Je crois qu'il n'y a rien de neuf hein, par rapport aux chiffres que vous avez avancés.
Il n'y a rien de neuf, nous confirmons notre chiffre et j'appuie tout à fait le point de vue de l'expert Zikouye, qui est un point de vue d'expert et je crois que il est tout à fait significatif.
Tout à fait significatif, mais on va voir aussi les explications que donne d'abord Kunda Milundu, monsieur le député. Quelle est votre explication sur cette affaire?
Alors, mon point de vue est que je suis très inquiet. Je ne parle pas évidemment en tant qu'expert, mais je parle en tant qu'observateur intéressé, parce que je suis un représentant du peuple. Dans la documentation que j'ai constatée, particulièrement pour ce qui concerne le territoire de Sakania que je représente, j'ai constaté que tout le territoire est découpé en petits carrés miniers qui sont attribués à des personnes soi-disant à titre de recherche. Et cette situation m'inquiète. Elle m'inquiète sérieusement parce que pour moi, le cadastre minier ne devait pas être un simple comptoir qui devait distribuer des plans de terre ou des carrés pour des gens qui doivent faire des recherches. Pour moi, le cadastre minier devait être un office de l'État qui devait faire une exploration minutieuse des ressources de notre pays et se servir donc des résultats de ces recherches dans les différentes négociations pour le développement de notre pays. Alors, ouvrir des comptoirs et distribuer à qui veut venir un titre de recherche, je crois que cela m'inquiète parce que déjà on a des difficultés dans le territoire de Sakania avec la mine de Kishiba. Il a dû déplacer des populations. Vous savez, les populations sont liées à leur plan de terre par des relations sentimentales. Mmh. On ne quitte pas un cimetière où reposent les ancêtres comme ça parce que quelqu'un a eu un permis de recherche. Et je peux continuer l'explication un peu plus tard.
Donc, vous êtes inquiet, mais certaines sources me renseignent que vous-même, vous serez aussi bénéficiaire de ce titre.
Mais bien sûr, mais cela ne m'empêche pas. Cela ne m'empêche pas d'être inquiet parce que vous savez, l'État, la République, le gouvernement doit être responsable dans les actes qu'il pose. Le cadastre minier n'est pas un comptoir pour vendre, non. Le cadastre minier devait être un service technique qui devait répertorier les ressources du sous-sol de ce pays et les utiliser dans les plans stratégiques de développement.
Voilà. Donc, nous retenons de vous que cette attribution des carrés miniers, tel que le cadastre minier procède, vous inquiète, hein, vous l'avez dit.
C'est exact.
Voilà. Et Jean-Pierre Moukeba, qu'est-ce que vous en dites, vous ?
En fait, je veux dire d'abord que je conteste ces chiffres-là parce que vous savez, pour faire une enquête sérieuse, je connais bien le professeur Yangouris, pour faire une enquête sérieuse par rapport aux concessions minières octroyées, ce n'est pas au Katanga qu'il faut aller chercher les informations, parce qu'en fait, quand vous êtes au Katanga, vous êtes, je ne sais pas dans quel territoire de la province, vous n'avez pas des éléments sur des concessions qu'on a cédées à qui que ce soit, mais c'est plutôt au cadastre minier qui définit là où on peut avoir ces données-là. Là, c'est déjà un premier problème. Par rapport à 85%, je ne dirais pas oui ou non, mais je sais qu'en 2005, les données que nous avons les plus récentes, le Katanga était déjà concédé à 38%, suivi du Kassai oriental et du Kassai occidental. Et donc, je me dis, peut-être dans les 4 ans qui ont suivi, peut-être qu'on a dû concéder encore d'autres parties de la province, c'est possible. Mais ce que nous pouvons déplorer, c'est que le cadastre minier qui est à Kinshasa, qui n'a peut-être pas toutes les données du terrain et qui ne fait pas des enquêtes préalables pour savoir où est-ce qu'il y a une école, où est-ce qu'il y a un hôpital, où est-ce qu'il y a un village, le cadastre minier pourrait, n'est-ce pas, céder des concessions ou des terrains où il y a des écoles. On a vu le cas de l'école de Lubusha, de Lucha, du lycée Lubusha. On a vu le cas, par exemple, bon, en fait, il y a des cas qui nous disent que le cadastre minier n'est pas sur terrain pour pouvoir avoir toutes les données du terrain. Mais en ce qui concerne le chiffre de 85%, je ne peux malheureusement pas confirmer qu'on a cédé 38% ou qu'on a cédé moins. Mais en ce qui concerne l'exploitation minière, en fait, si ce sont les permis de recherche qui peuvent être transformés en permis d'exploitation après, il est vrai que quand on veut déplacer un village tel que le village Kiziba, on va payer. Mais ce que nous avons contesté, nous, au niveau de la société civile, c'est que le paiement prévu par les règlements miniers, c'est la valeur plus la moitié de la valeur. Donc, si vous êtes dans une petite case telle que à Kiziba, dont les députés ont parlé, les huit là ont une valeur peut-être de $100, donc on va donner $100 plus la moitié. Et nous pensons qu'il faut revoir le code minier pour que quand on construit des maisons, ça soit quand même des maisons plus ou moins spacieuses et des maisons plus ou moins durables qui sont différentes des maisons que Fred Quantum a construit à Kiziba. Donc, c'est des questions dont nous discutons beaucoup au niveau de la société civile et du reste, la semaine dernière à Lubumbashi,
oui.
Nous étions en réunion avec les ONG de la Zambie et nous avions discuté une fois de plus de ces questions-là.
Oui. Donc, vous avez, Jean-Pierre Moukeba, excusez-moi, vous avez déjà anticipé en fait sur le fait de vérifier si effectivement cette attribution des carrés miniers profite au Katanga et au pays. Vous avez déjà commencé à donner des éléments. Mais d'abord, une précision, vous parlez du village de Kijima, il est où exactement?
Donc, le village de Kijima, il est dans le territoire de Sakanya. Le village de Kijima, il est à 9 km du chef-lieu du territoire de Sakanya. Mmh. Et c'est là où l'entreprise First Quantum vient de commencer une exploitation de ce qu'on appelle les frontières qui est une nouvelle carrière avec une usine qu'on a construite de ce côté-là.
Voilà.
Dans le village Kijima, dont l'honorable venait de parler tantôt.
Oui, Sakanya, c'est donc à la frontière avec la Zambie. Et il y a Jean-Pierre Stamboué qui nous écrit de Lubumbashi au Katanga. C'est une question qu'il vous adresse à vous, hein, monsieur Félix Mupande. Il dit, le cadastre minier est-il prêt de nous prouver qu'il n'a pas distribué notre terre à 85%? Qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, je le rassure et je confirme le chiffre de 53,4%. Et je veux dire, à la suite de l'intervenant tout à l'heure, M. Pierre Mouteva, que la situation de 38% avait entre-temps évolué et que, selon nos constatations, il y a une évolution qui va faire en sorte qu'avec les renonciations et les renouvellements, les renonciations de moitié qui sont obligatoires, le chiffre de 53 va encore diminuer davantage, car la tendance étant de retenir que le parti qui présente des facteurs géologiques favorables. Et là, j'ai rejoint le point de vue que l'expert, le premier expert a donné sur la notion du permis de recherche, qui est en fait l'étape qui vous est accordée pour découvrir un gisement. Et il est peu possible que les gens gardent, par exemple, 400 km² comme titre minier pendant qu'ils ont découvert les gisements sur 5 ou 6 hectares. Donc, mais à l'intention de l'honorable Kunda,
oui.
Je voulais tout simplement rappeler ceci, qu'il y a un problème à un certain niveau, il confond le rôle des services. Il faut prendre le secteur minier dans son ensemble comme un système où le cadastre minier est un service parmi tant d'autres. Il y a une direction de géologie et une direction de mines. Le rôle de service géologique, et c'est justement de prendre, de faire la synthèse des données géologiques que les opérateurs miniers déposent pour essayer de faire une carte de synthèse et faire évoluer les connaissances géologiques sur la carte et sur le pays pour la découverte de nouveaux modèles de gisements. En fait, ce n'est pas le rôle. Le cadastre a un rôle bien déterminé. C'est la gestion des droits miniers, des droits et titres qui en découlent. Et il y a des services appropriés pour ça, donc la direction de géologie, la direction de mines. Et je crois savoir que peut-être l'honorable Kunda, qui a parlé de l'achat, je crois qu'il pourrait peut-être un jour vous présenter la facture à travers laquelle il a pu acheter un titre minier au cadastre minier, si effectivement il a acheté quelque chose.
Donc vous voulez dire par là que ceux à qui vous attribuez les carrés miniers n'achètent pas?
Non, n'achètent pas parce que la preuve est là et qu'il vous prouve qu'il a une facture contre.
Et s'ils n'achètent pas, alors ils font quoi?
C'est un octroi qui a été fait pour que eux puissent effectuer les recherches et dire au gouvernement que dans le sous-sol qui vous appartient, il y a ces gisements, accordez-le-moi pour faire l'exploitation en titre de permis d'exploitation.
Oui, excusez-moi, je reviens à ce que le professeur Yann Goris a dit, même si vous n'êtes pas d'accord avec le pourcentage de 85 que lui avance, mais du moins, il a évoqué les pistes de solutions. Quand il vous demande, par exemple, de geler, je crois, l'octroi des permis et de recherche, en même temps, il annonce qu'il y a à peu près 400 permis de recherche qui sont en voie d'attribution. Qu'est-ce que vous dites à ce propos-là? Comment vous réagissez?
Les chiffres des 400, je ne sais pas d'où est-ce qu'il les sort, mais toujours, je veux retenir une chose que M. Yann Goris aurait mieux fait de lire et relire plusieurs fois le code minier pour comprendre ce qu'il y a. Parce que, en fait, lorsque on arrive à la fin de validité d'un titre minier de recherche, eh bien, effectivement, il y a un rapport géologique qui est déposé auprès des services attitrés pour l'analyse. Mais pour le renouvellement, vous êtes tenu d'abandonner la moitié du périmètre. Donc, en fait, vous comprenez que le moratoire qu'il exige là, c'est un moratoire qui enfonce une porte ouverte parce que la loi en elle-même est là, introduit un moratoire de fait. Avec les réductions progressive, et de sorte que quelqu'un ne peut plus redemander quelque chose qu'il a acquis, il a renoncé. Donc en fait, le moratoire, c'est une chose, quelque chose de fait, mais la loi elle-même a prévu ce moratoire de manière interne. Il y a une autorégulation qui fait que jamais 100% du territoire ne sera donné, et nous allons toujours vers un taux qui est plus bas, mais le taux ce sera plus bas, mais plus spécifique, contenant notamment le périmètre qui renferme de gisements.
Monsieur le député national, Kunda Milondo.
Oui.
Réagissez.
Mon inquiétude n'est pas au niveau des pourcentages de territoires qui sont déjà attribués. Et pour me référer à ce que vient de dire le directeur général de CAMI, ma préoccupation non plus, je n'ai pas savoir si on a acheté ou pas. Pour moi, l'État propriétaire des ressources du sous-sol doit connaître ce que le sous-sol recèle réellement et avec la plus grande précision. Et utiliser ça dans les différentes négociations qu'elle a, dans le sens du développement de notre pays. Il ne faut pas que le cadastre féminin, bon, je ne suis pas un expert évidemment, pour moi le cadastre féminin ne doit pas être réduit au simple rôle d'attribuer des permis de recherche. Il faudrait que des recherches approfondies, minutieuses soient faites et que cela soit utilisé comme arme dans les différentes opérations de développement, dans la lutte pour le développement du pays que les différents acteurs gouvernementaux doivent mener. Voilà un peu ma vision sur cette question-là. Donc ce n'est pas que je voudrais m'attaquer aux responsables du cadastre minier. Non. Pour moi, l'État propriétaire doit, avant de proposer les différentes concessions à divers opérateurs, elle doit avoir une connaissance approfondie de ses ressources.
Voilà. Si j'ai bien compris, je crois, le DG Félix Mopané a parlé du centre de recherche géologique, je crois, qui est...
Il y a la direction de géologie et le centre de recherche géologique et minière. Et juste une précision à l'intention de l'ouvrage.
Très rapidement,
pour connaître les richesses qui sont sous-sol, on procède à l'exploration. L'exploration comprend deux étapes importantes pour abréger. Il y a la prospection géologique qui relève du domaine de l'État. Cela peut être fait sans avoir des titres miniers. Et la prospection minière qui relève généralement du domaine des privés parce qu'elle demande un budget tellement très important qu'un État qui est préoccupé par des problèmes sociaux ne pourra pas être en mesure de mettre en œuvre pour essayer de découvrir un gisement. Mais dans un premier temps, l'État peut préparer les terrains en donnant une bonne carte géologique, en donnant des indices à partir desquels doivent s'opérer les explorations pour la découverte d'un gisement. À la fin de la découverte, eh bien, c'est partagé entre l'État et celui qui a découvert.
On va peut-être boucler cette première partie du débat avec vous, Jean-Pierre Mouteba. Est-ce qu'on peut dire que la population au Katanga devrait s'apaiser par rapport à la taille des surfaces attribuées en termes de carrés miniers?
Oui, c'est-à-dire que par rapport à la surface attribuée au carré minier, il faut dire que le DG peut-être vient de le dire, quand vous attribuez une surface, ce n'est pas évident que la totalité de la surface va faire l'objet d'une exploitation. Il faut dire que la surface peut être grande, mais le gisement peut se concentrer sur une partie de la surface. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut comprendre. La deuxième chose, c'est que la façon dont on attribue les concessions fait que parfois, les populations n'auront pas des surfaces pour pouvoir faire le champ et autre chose. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, n'est-ce pas, essayer déjà de voir comment est-ce qu'on peut limiter la d'ailleurs, nous allons en arriver là. Oui. Parce qu'il faut déjà, pour le Katanga principalement, des choix certains détenteurs de titres, ceux qui n'ont pas pu payer pendant les années passées la taxe superficielle par carré, de manière à ce qu'on puisse les choix de titres et que ces terrains-là servent à l'agriculture notamment. Parce que par exemple, si vous êtes dans le district de Colombie, mais vous avez des difficultés pour trouver des surfaces pour faire le champ, où vous pouvez faire le champ juste pour la consommation d'un ménage, mais il est difficile de trouver des espaces, des grands espaces pour faire des champs pour une production industrielle, tout simplement parce que les exploitants miniers ont pratiquement pris l'essentiel des gisements. Et puis, je peux dire aussi, par rapport justement à ces gisements, l'ADT de Camille le sait, nous avons au Katanga, par exemple, les zones qui sont les zones protégées. telles que la zone de la base Kando, telles que la zone de protection des biosphères de la Lucira. Nous avons par exemple les parcs de Upemba et les parcs de Kundelungu, mais ce qu'on constate, c'est que dans ces zones de protection, ces zones qui appartiennent au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a aussi des concessions minières qui sont, n'est-ce pas, faites là. C'est des choses que la population du Katanga devrait, n'est-ce pas, dénoncer, et nous dénonçons, nous, les ONG, nous le faisons déjà. Oui. Nous dénonçons cette façon de travailler qui ne respecte même pas le patrimoine commun, les patrimoines. Et bon, en fait, c'est des choses comme ça que nous déplorons, parce qu'il va être difficile de faire des champs pour une production industrielle, il va être difficile de d'autres choses. Donc ça, je crois que le cadastre minier devrait faire un effort pour respecter un certain nombre de normes, et ces normes-là doivent être décidées de commun accord.
Mais évidemment, on en reparle tout de suite, juste rappeler que nous parlons de 85% du territoire katangé découpé en carré minier attribué à des tierces personnes. C'est le professeur belge Yann Gorus qui l'a dit, mais ces chiffres sont contestés par le cadastre minier qui parle plutôt de 53%. Alors l'octroi de ces carrés miniers profite-t-il au Katanga et au pays? Nous en parlons juste après le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
L'octroi des carrés miniers au Katanga profite-t-il à cette province et au pays? Avant de poursuivre ce débat, il faut d'abord signaler que la révélation du professeur belge, même s'il est remise en cause par le cadastre minier au niveau des chiffres, la situation inquiète le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui, comme en blaguant, craint pour sa propre résidence, même pour le gouvernorat, face à cette attribution massive des carrés miniers. Le numéro 1 du Katanga compte sur Kinshasa pour prévenir ce qu'il appelle un éventuel affrontement entre populations de sa province. Moïse Katumbi.
Donc, il faudrait descendre avec le professeur Boris Kinshasa et leur montrer, parce qu'un jour ça va amener un désordre, les gens vont s'empêcher.
Alors, monsieur le député Kunda Milundu, vous êtes député national, élu du territoire de Satania au Katanga, est-ce que vous partagez l'inquiétude du gouverneur Moïse Katumbi?
À 100%. Il a exactement la vision que j'ai, parce que selon la documentation que j'ai, le territoire katangais a été quadrillé, et tout celui qui veut bien prendre, il suffit qu'il remplisse les conditions exigées par le cadastre minier, on lui attribue. Et généralement, ces attributions ne tiennent même pas compte des réalités sur le terrain. J'ai déjà plusieurs fois entendu mes électeurs faire des blagues en disant qu'il y a des gens qui ont reçu des concessions minières sur des lacs, sur des cimetières et sur des collines réservées à l'enterrement des chefs coutumiers. C'est donc dire que le travail qui est fait par le cadastre minier n'est pas un travail qui est préparé en avance. C'est un travail, je dirais, de boutique, où on ouvre un guichet, et quelqu'un vient, il remplit un certain nombre de conditions, on lui attribue, et je m'insurge contre cette pratique. Je répète encore ce que j'ai dit, pour moi, l'État doit être suffisamment responsable. L'État doit prendre connaissance totale des ressources qui sont les siennes avant de pouvoir traiter avec tous les autres partenaires qui doivent conduire notre population au développement. Voilà ma position là-dessus.
Voilà, Jean-Pierre Moutéba l'a déjà dit, on va revenir à lui, mais d'abord avec vous, Félix Moupandé. Je pense que Guy Maté va essayer de voir, je crois qu'on a perdu un des invités qui sont Jean-Pierre Moutéba. Voilà, on signale que Jean-Pierre Moutéba, on l'a perdu, et Félix Moupandé, le directeur général du cadastre minier, monsieur le DG, finalement, est-ce que vous rassurez avec la façon dont vous procédez en attribuant même des terres arables où les populations cultivent, donc des champs partent, finalement, on risque d'arriver au Katanga où il n'y aura plus de villages, plus de maisons, et il n'y aura que des carrés miniers partout.
Je crois qu'il y a un problème de la connaissance de la loi minière, du code minier, de sa vulgarisation. Et c'est très important qu'on reprenne encore la vulgarisation de ce code minier, des autorités politiques, des décideurs, jusqu'à la population dans le bas. En fait, il faut faire une distinction entre l'activité minière de recherche et l'activité minière d'exploitation. Lorsque on parle d'un permis de recherche, il n'exclut en rien l'activité agricole, il n'exclut en rien les infrastructures d'habitation. L'activité, la recherche, vous pouvez la faire par géophysique, Oui, mais par le voie géophysique, par terre, oui, et déterminer les anomalies.
Oui, excusez-moi, monsieur DG, excusez-moi de vous arrêter là, parce que tout à l'heure, quand on parlait, vous avez au moins reconnu qu'il y a des permis de recherche qui sont déjà mués en permis d'exploitation.
Non, je veux vous dire dans quelles conditions ça s'est mué.
Oui.
C'est justement là où intervient le point de vue de l'honorable Kunda. Bon, avant que les permis de recherche puisse se muer en permis d'exploitation, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir.
C'est quoi,
c'est là où, parmi ces conditions, il faut tenir compte de l'existant. Donc, de l'existant comme activité sociale, de l'existant comme activité agricole, de l'existant comme les autres les sites archéologiques, un certain nombre de choses.
Bon, prenons d'abord cette première condition.
Oui.
Est-ce que les gens à qui vous avez attribué ces carrés miniers, est-ce qu'ils remplissent cette condition?
Généralement, tout ce monde-là à qui nous avons attribué le permis de recherche, et lorsqu'il leur est arrivé de transformer des permis de recherche en permis d'exploitation, il présente une étude d'impact qui comprend les aspects sociaux, les aspects environnementaux, et dans lesquels sont décrits tous ces existants et les moyens de parer à tout problème qui pourrait être, affecter ces éléments. Et c'est tout à fait clair, il y a l'étude de faisabilité, il y a l'étude environnementale, il y a le plan de développement durable qui est fait, qui contient un certain nombre d'actions sociales qui vont réduire ou qui peuvent être mises en œuvre au bénéfice de ces populations là-bas. Donc, en fait, ce que je veux dire, pour répondre à votre question en bref, le fait d'accorder des permis de recherche à des sociétés répond à la préoccupation de l'honorable Kunda, c'est de connaître mieux les sous-sols en vue d'agrandir la richesse du pays. C'est ça. Et ce n'est pas le fait, on ne leur attribue pas un droit foncier.
Oui, mais comment pouvez-vous dire que les populations ou l'existant, comme vous l'appelez, ils bénéficient de cette attribution lorsque des villages, moi j'ai suivi un auditeur qui est intervenu justement dans la parole des auditeurs, qui a dit qu'au niveau de Colézy, un village avec des champs, c'est parti moyennant $600 aux gens. Vous pensez que c'est bien étudié?
Je crois que là, je veux que vous vous rappelez la réponse de M. Pierre Mouteva de la société civile. Le code a dit la valeur du terrain plus la moitié. Il a évoqué une chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Il est important, surtout pour la part de l'élite, de revoir ces aspects des choses pour que l'indemnisation soit une juste indemnisation qui permet aux personnes qui sont affectées par l'indemnisation de survivre ou d'aller un peu plus loin, de les aider à se lancer dans la vie. Ça peut être sous forme agricole ou quoi. C'est une réforme à mettre en place, à mettre en œuvre.
Voilà.
Et c'est cela, je suis d'accord avec M. Mouteba là-dessus, et tout à fait.
Et puisque la réalisation, monsieur, que Jean-Pierre Mouteba est de nouveau en ligne, Jean-Pierre, vous êtes là? Jean-Pierre Mouteba?
Parce qu'il n'est pas
il est parti, on va poursuivre. Vous avez donné la première condition. C'est la deuxième.
La deuxième, j'ai dit, bon, il y a l'étude environnementale avec les impacts sociaux, il y a le plan de développement social ou le plan de développement durable qui est mis en œuvre, qui doit être mis en œuvre par l'opérateur minier qui cherche à transformer son permis de recherche en permis d'exploitation. Donc, en fait, c'est autant de conditions qui sont rigoureuses, qui répondent à la préoccupation de M. Kunda et de M. Mouteba, selon laquelle il faut au préalable connaître ce qu'il y a, c'est-à-dire l'existant. Mais l'autre partie de l'activité minière, qui est la recherche, c'est tout simplement une activité préliminaire qui vous permet de savoir si oui ou non il y a un gisement. Ça ne vous donne droit à rien en dehors de la recherche. Et par conséquent, si la préoccupation de l'honorable Kunda est celle-là, d'aider l'État à connaître mieux son sous-sol, l'État peut le faire soi-même, tout comme il peut le faire par des privés interposés.
Mais
je suis d'accord avec vous
que
si l'État mobilise suffisamment de l'argent, il peut le faire, il a tout le moyen de le faire. Mais de par le monde, moi qui connais l'histoire de l'industrie minière, j'ai vu nulle part un État découvrir un gisement.
Ouais.
Essentiellement, le privé qui le font. Les juniors pour l'essentiel et les majors.
Voilà, et c'est assez facile que Jean-Pierre Mouteba est en ligne. Vous êtes là, M. Jean-Pierre?
Oui. Non, c'est-à-dire que ce que j'aimerais vous dire à l'ADG, c'est qu'il y a des pays tels que la Libye et d'autres pays qui n'ont pas voulu faire la recherche sur l'ensemble du pays. Parce qu'en fait, il y a nous, il y a les générations futures, nos enfants et nos petits-enfants. Si nous commençons à faire la recherche sur l'ensemble du pays, donc il y a risque que, avec notre façon de gérer, que nous puissions
Oh, c'est dommage. On a perdu Jean-Pierre Moutéba. Mais au moins, on comprend ce qu'il dit par rapport aux réserves stratégiques. Je vais vous redonner la parole, puisqu'on a aussi Kunda Milundu.
Je vais compléter là-dessus pour dire que la réserve stratégique en question, il faut éviter de penser que ça va être tout simplement la réservation des périmètres. La réserve stratégique, c'est en termes de gisement. À quoi ça vaut de garder un périmètre pour lequel vous savez qu'il n'y a rien en dessous et de garder pour les générations futures? Et de l'utiliser que là où il y a des gisements. Il faut procéder à des études.
Je vais revenir à vous parce qu'on a entendu ici, c'est Jean-Pierre Moutéba qui a dit qu'il y a même des parcs quand même où vous avez attribué des droits miniers, des carrés miniers, dans des parcs. Oui, Jean-Pierre Moutéba, rapidement, et puis on donne la parole à Kunda Milundu.
En fait, ce que je disais, c'est qu'il y a des pays qui ont laissé deux tiers ou trois quarts du pays aux générations futures. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'obligation de faire la recherche sur l'ensemble du pays. Nous pouvons laisser d'autres parties du pays à d'autres aux générations futures, de manière à ce que ces générations-là aient aussi l'accès aux richesses. Parce que la façon dont aujourd'hui les autorités du pays sont en train de faire ce travail-là, c'est comme si elles sont tellement pressées de se faire de l'argent, et alors, dans cette perspective, elles veulent liquider pratiquement tout le pays. Parce que quand vous avez fait la recherche et que vous avez trouvé qu'il y a des minéraux, naturellement, vous prenez un permis d'exploitation et vous transformez votre permis de recherche en permis.
Voilà, il est parti, il a beaucoup d'éléments, mais malheureusement, on a des problèmes avec sa ligne. Kunda Milundu, monsieur le député national, vous allez enchaîner avant de redonner la parole au DG Félix Mopande du Kadas Minier. Kunda Milundu, il est parti. On risque de terminer l'émission avec Félix Mopande. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les réserves stratégiques?
Moi, je pense que, d'abord, il faut donner une précision. Nous avons, je vous l'ai dit la fois passée, environ 155 km. Donc, un tiers du domaine concédé qui est mis en réserve, comme réserve stratégique.
On ne va pas y toucher.
Et nous continuons, on ne va pas y toucher. Cela veut dire quoi concrètement? On ne va pas y toucher. L'État a la capacité et la possibilité d'exercer les travaux d'exploration là-dessus. À quoi ça sert de laisser, je reviens encore à ma question, de laisser à la génération future un terrain sur lequel vous ne savez rien? Nous avons au moins la responsabilité de savoir qu'il y a ceci. Et l'État met en réserve un gisement, c'est plus intéressant que l'État mette en réserve un périmètre.
Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas l'État qui mène ses recherches
Je parle de la réserve stratégique.
Oui, mais justement.
Qui sont menées sur les périmètres qui sont mis en réserve.
Oui, mais
qui devront être menés.
Oui, mais ce n'est pas l'État qui mène, ce sont les particuliers à qui vous donnez.
Je vous apporte la précision suivante. Je vous dis qu'il y a 150 km. Que le cadastre minier a mis en réserve, sous lequel personne ne peut toucher. Et M. Moutéba, c'est en tant que titulaire des droits miniers. Mais c'est un domaine qui est à la disposition de l'État. Et l'État peut y exercer les travaux de recherche à travers ses services spécialisés.
Alors,
c'est ce qui est fait.
Oui, mais alors il ne
va pas l'écriver.
Oui, une question simple. En quoi l'attribution des carrés miniers, M. Félix Mopande, en quoi elle profite au Katanga, par exemple?
D'abord, ça profite, premier élément, la première contribution très importante, c'est qu'elle permet de connaître, en fait, de quoi est la richesse du sous-sol, de quoi est constituée cette richesse. On ne va pas se cantonner seulement sur quelques 2, 3, 4 gisements que les Belges nous ont laissés, sur lesquels tout le monde est en train de se battre, sous forme de contrats, de limitations et autres.
Jusque-là, le Katanga n'en profite pas.
Non, jusque-là. Non, non.
Ouais.
Les travaux de recherche, ce ne sont pas des travaux instantanés, ça prend du temps.
Ouais.
Le temps moyen, c'est entre 5 et 10 ans pour arriver à déterminer le gisement, à l'existence d'un gisement. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, on vient de mettre à jour un gisement très important à l'ouest de Kolwezi. À 40 km de Kolwezi, c'est l'Africa Minerals qui a mis en évidence cet gisement d'environ 6 millions de tonnes métal en termes de cuivre. Ça, c'est une nouvelle découverte.
Oui, c'est une découverte.
En quoi la population va profiter?
Oui.
D'abord, c'est un nouveau gisement qui va être mis en exploitation. Ça va donner du travail aux populations.
Pour des salaires minables.
Ça, c'est autre chose. Les gens ne vont plus se concentrer sur seul Tenke Funguru, mais sur cette Kamoto. Il y aura aussi ces gisements. Secundo, il y a les redevances qui devront être payées. Ça va contribuer à l'économie nationale. et différentes autres taxes qui seront levées à partir de cette valeur économique, cet actif. C'est ça qu'il faut attendre.
Voilà. Il y a Jean-Pierre Moutéba. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Jean-Pierre Moutéba, est-ce que l'attribution des carrés miniers profite au Katanga et puis à la RDC?
Non, je dirais oui et non. Hein. Non, dans la mesure où l'ADG le fait, le recouvrement par les DGRAD est très faible. Le taux de recouvrement est entre 22 voire 30% seulement. C'est que la RDC, par rapport au carré minier, la RDC attend la taxe superficielle annuelle par carré. Et vous le savez bien, depuis qu'on a arraché cette taxe au cadastre minier, malheureusement, la DGRAD n'est pas capable de faire un recouvrement suffisant pour permettre à la RDC de rentrer dans ce fonds-là. Donc là, nous avons déjà un problème. Donc en fait, la distribution aujourd'hui ne permet pas à la RDC de rentrer dans cet acte. Et deuxièmement, vous savez qu'il y a beaucoup de détenteurs de permis de recherche qui ne payent pas cette taxe-là. Parce que quand nous disons que le taux de recouvrement est autour de 22-25%, c'est qu'il y a réellement un problème. Donc de ce côté-là, je crois qu'il y a des mesures qu'il faut prendre pour que la RDC puisse rentrer dans ses droits et le plus vite possible, parce qu'il y a des arriérés pour certaines entreprises ou certains individus qui ont plus de carrés, qui n'ont pas la capacité malheureusement ni de faire la recherche, ni de payer la taxe superficielle annuelle. Donc de ce côté, je crois qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des mesures qu'il faut prendre et il faut ne pas responsabiliser les gouverneurs de province pour que cette situation soit faite, non pas à Kinshasa, mais dans les provinces, et que rapidement des mesures soient faites et soient prises pour des choix, ceux qui ne savent pas payer et qui ne permettent pas à l'RDC d'avoir des moyens pour, n'est-ce pas, faire face à ces charges qui sont aujourd'hui importantes avec la crise financière.
Voilà, on va reposer la même question à Kunda Milundul, député national élu du territoire de Sakania.
Oui.
Ouais, par rapport au profit que tire la province du Katanga et la RDC dans cette attribution des carrés miniers, vous dites quoi?
Ah, je suis très formel là-dessus. Je suis formel. La politique actuelle du code minier n'est pas en faveur de la population congolaise en général. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que ce code minier soit revu pour que l'on puisse voir comment orienter les partages vers la population congolaise. Dans certains pays que j'ai déjà visités, il y a des mesures qui sont prises de manière à ce que quand les gens viennent pour exploiter les ressources, qu'on les contraigne à travailler en partenariat avec les populations nationales. Cela aide à profiter aux populations locales. Mais tel que ça se passe, en tout cas, particulièrement dans mon territoire de Sakania, c'est déplorable. L'environnement est détruit et il n'y a rien en place. Les populations sont déplacées dans tous les sens. On ignore certains paramètres qui lient les populations à leur terre, des paramètres de nature sentimentale. Et on croit que tout peut être monnayé. Moi, je crois que c'est triste. Ce sont des choses qui doivent être revues. Pour moi, le code minier tel qu'il se présente aujourd'hui, il n'est pas correct. Il n'est pas dans l'intérêt des populations congolaises. Il doit être révisé.
Voilà, il y a des auditeurs aussi qui en parlent. Il y a Zarni Tabea qui nous écrit depuis la Suisse. Il estime qu'en termes de revenus, qu'est-ce qu'a généré justement cette opération pour le trésor public et sur quelle période cela s'est effectué. Assistant Germain Kabanda de Kolwezi au Katanga pense que l'octroi de ces carrés miniers ne profite ni au Katanga ni au pays, si ce n'est qu'aux responsables congolais chargés de procéder aux dits octrois et aux acquéreurs. La preuve, dit-il, est que leur exploitation n'a aucun impact visible sur l'environnement katangais et congolais. Qu'est-ce que vous répondez, M. Félix Mopande, vous êtes directeur général du cadastre minier?
Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. D'abord, pour compléter M. Moutéba là-dessus, il y a les droits superficiels annuels. Même si le taux de recouvrement est très bas, il y a un effort qui est fait entre les administrations, entre la DGRAD, entre les CAMI et le gouvernement pour améliorer ce taux de recouvrement. Il a oublié un autre, il y a la taxe superficielle sur les concessions minières qui est élevée par la DGI. C'est une contribution directe. Ce qu'il n'a pas oublié de dire, c'est que lorsqu'on met en exploitation un gisement, ça va générer des redevances minières. C'est une contribution. Ça va générer des impôts. Ce sont des contributions. Il y a actuellement environ une dizaine de gisements qui ont été découverts, qui vont être des actifs économiques très importants, qu'on va mettre dans la balance pour augmenter le PIB. Ça va contribuer à l'augmentation globalement de notre PIB, donc à la croissance économique. Alors pour répondre tout à fait la...
Parce que je reproche aussi de faire cette attribution de carré minier à Kinshasa, et alors que on n'a pas compris des réalités locales.
Là n'est pas le problème. Là n'est pas tout à fait le problème. La réalité, elle est là. Je vous ai dit que le code minier est suffisamment rigoureux. Même si on a attribué les droits miniers à Kinshasa, les titulaires des droits miniers doivent passer par des parcours de combattants pour arriver à exercer son droit de recherche.
Mais comment est-ce possible lorsque déjà, il vous est aussi accusé de donner des titres de carré minier à des gens qui n'ont même pas de moyens ni de techniques pour exploiter?
Ça, c'est un autre débat. Moyen ou technique, qui a les moyens et qui ne l'a pas. Je vais vous dire une chose à l'indiquer.
Parce qu'on s'est pas dit qu'il y en a même qui sont en retard de payer.
Non, non, ceux qui sont en retard de payer, heureusement qu'ils vont me rappeler là, et ils le savent très bien, ce sont les personnes pour lesquelles nous annulons des titres depuis que le cadastre minier a existé. Vous ne payez pas au-delà du 31 mars ou au-delà du 31 avril, votre titre est annulé. Et c'est ce qui contribue à améliorer d'ailleurs le taux de le taux d'occupation. Et aujourd'hui, il est à 53. Peut-être la prochaine fois que je vais faire avec vous cette émission, il sera moins que ça parce que nous attendons à annuler environ 1000 titres cette année pour non-paiement des droits superficiels.
Mais qu'est-ce que vous répondez, excusez-moi, M. DG, qu'est-ce que vous répondez finalement à Germain Kabanda de Colosi qui a dit que cette attribution des carrés miniers, en fait, vous profite plus à vous qu'à la population qui est au Kabanda?
Je ne sais pas de quelle manière ça me profite à moi en tant que citoyen congolais, tout simplement parce qu'il y a une contribution budgétaire d'autour de 40 millions en termes de droits miniers et de droits superficiels au budget annuel, et ça, je peux accepter que ça me profite.
Non, parce mais que moi, je ne vois rien de visible.
Écoutez, vous attendez à ce que la population voit quelque chose de visible avec les 40 millions?
Il faut qu'ils voient les hôpitaux,
les hôpitaux, pour construire les hôpitaux, il faut qu'il y ait des revenus qui soient créés. On ne crée pas de revenus à partir de rien, c'est à partir des actifs économiques. Et je crois que M. Kabanda devra le comprendre c'est ça la contribution. Tout le monde peut en profiter aujourd'hui. Et les agents du CANI, tout comme les responsables du CANI ou les responsables du ministère, n'ont pas un profit particulier à octroyer les droits miniers. Plutôt, ils contribuent tous à constituer la richesse du pays.
On va permettre à Kunda Milundu, le député national élu du territoire de Sakania, de placer un mot ainsi qu'à Jean-Pierre Muteba. Oui, Kunda Milundu, vous avez suivi le DG Félix Mopandé.
Oui.
Vous êtes satisfait?
Non, je ne suis pas satisfait à 100%. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve une formule pour revisiter le code minier. Pour moi, le code minier n'a pas été fait en faveur du citoyen congolais. Il doit être révisé de manière à l'orienter dans le sens de mettre le citoyen congolais au centre de l'action minière dans ce pays. Voilà.
Jean-Pierre Muteba.
Oui, donc je suis d'avis de l'honorable. Déjà en 2004, nous avions, nous, à la société civile du Katanga, organisé une réunion où nous avions dit que les codes miniers, c'était aussi une autre forme de pillage. En fait, ils constataient une autre forme de pillage. C'est vrai qu'il y a des dispositions qui sont très positives, très bonnes, mais il y a aussi des dispositions qui doivent être améliorées, notamment celles qui concernent la délocalisation, les calculs de ce qu'on doit payer au village délocalisé. Donc, il y a des questions qu'il faut améliorer. Mais en ce qui concerne les constructions minières, nous pensons qu'il faut des choix d'abord tous les détenteurs qui sont solvables, qui ne payent pas à l'État tel que la DG vient de le dire. Deuxièmement, il faudrait qu'on rétrocède au cadastre minier la perception de la taxe superficielle par carré. Parce qu'aujourd'hui, quand vous le sentez bien, le 5% ne rentre pas. L'administration minière n'a pas de moyens pour suivre l'exploitation, pour suivre ce qui se fait sur le terrain. Et de trois, nous pensons qu'il faut prendre un moratoire pour arrêter la distribution d'autres concessions maintenant. Et aussi, il faut annuler toutes les concessions qui ont été données.
Merci.
Qui ont été donnés dans les parcs, les zones de la protection, dans les zones, tout ça. Ça, il faut annuler sans autre forme de
procès. Voilà, on va laisser les dernières secondes à Félix Mopandé pour répondre. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la révision du code minier?
Moi, je pense que c'est un point de vue que je partage. J'ai toujours dit qu'il y a des lacunes dans ce code qui doivent être améliorées. par rapport à plusieurs aspects.
Notamment la délocalisation, comme on dit, les calculs de l'argent.
Je vous l'ai dit avant, et je crois qu'il y a une commission qui est mise en place au ministère des Mines, à laquelle tout le monde participe. Il y a eu les états généraux, il y a eu de nouvelles propositions, de nouveaux codes, où le code minier sera amélioré ou renforcé dans le sens de son application avec certaines autres dispositions. Mais c'est tout cela, c'est dans le sens de mettre l'homme au centre de l'intérêt de cette exploitation minière, de ce secteur minier. C'est pour rejoindre les préoccupations de l'honorable Konda, qui, je crois, ils auront à discuter au Parlement quand le gouvernement va déposer les propositions de réforme de ce code minier.
Oui, il y a les inquiétudes aussi du gouverneur.
Bon, les inquiétudes du gouverneur aussi, c'est la même chose. Moi, je pense c'est dans le sens de l'application de l'amélioration. Et M. Moutéba l'a dit, si ce code est bien appliqué, et s'il y a un bon suivi sur le terrain, et si l'argent est donné aux différentes administration, ça sera bien appliqué.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Enrique Sidiatal a été la mise en onde. Guy Maté, assisté de Kelly, tenait la réalisation. Coordination de Martin Sebujangwe, Jean-Claude Bakamanga devant ce micro.